Jean-Richard Bloch, Lévis. À Romain Rolland. Partie 1. Le voyageur arriva dans la capitale de l'Ouest par l'express du soir. Le soleil sombrait dans la buée comme un œil poché qui se ferme. Il avait fait très chaud dans la journée. Le grand wagon sentait le charbon, la sueur, le tabac et le jus d'orange. Comme il y avait un fort contingent d'Espagnols dans le train, l'odeur douce de la sueur humaine traînait sur le reste. Cela sentait aussi le vin rouge, avant et après. Un éclaboussement en éventail coagulait la poussière sur une des longues glaces entraînées non douteuses. L'express pénétra, frein bloqué, sous le hall de la gare. Un frisson de glacière parcourut le wagon qui tanguait doucement en glissant. Le voyageur descendit, les narines noires, en rêvant d'un appareil à douche bien nickelé et d'un café froid. Le ourvari d'une course de 28 heures, au long de laquelle il avait pris les plaines du Midi en brochette de Marseille à Bordeaux, se démenait au fond de ses oreilles. Il faisait le Midi depuis 20 ans. Il en avait eu assez. Il était allé trouver le patron et lui avait dit « Je m'ennuie, donnez-moi l'Ouest ». L'autre avait fermé un œil. « On n'est pas idiot à ce point-là. Monsieur, 5 louis par mois et 1 du 100 sur la vente en plus. Mais vous garderez le Midi. Monsieur, quand on a chauffé son lit, on ne se relève pas. Vous garderez le Midi. » Voilà comment il avait plaqué le patron. 20 ans de voyage pour le même article et pour la même maison. Un chiffre d'affaires et une clientèle qui l'appelait Valentin. C'était une bêtise. Mais le tempérament ne se commande pas. 20 ans de cuisine à l'huile, d'ail, d'accent, de filles brunes, de tutoiement, de vent et de soleil. Quand il remontait une fois par an dans le nord, qu'il retrouvait la pluie et les bestiaux dans les herbages, il appuyait le front sur la vitre du compartiment et soupirait. Il était né à Alençon. On ne se refait pas. On lui avait dit « L'Ouest est bon pour les cycles ». Il voyageait depuis 20 ans pour la bonneterie. Belle route, de l'argent et du monde qui ne sait pas travailler. Il y a une clientèle à se faire. Et puis, on lui avait parlé des petites villes mortes et vieilles, où il pleut beaucoup, où on cause peu, où chacun vit dans sa maison. Tout de suite, en sortant de la gare, l'endroit lui avait plu. C'était bien l'Ouest. Les gens se quittaient sans rien se dire et marchaient mal. Les hommes étaient grands avec de longues têtes, les femmes étaient pâles ou grises, avec des bonnets blancs sur des cheveux gras. Ils chantaient en mangeant les voyelles à la fin des mots. Cela lui faisait battre le cœur. Il pensait à Alençon. Un vieux tramway électrique des premiers temps de la dynamo attendait pour monter parce que la ville était en l'air. On n'en aurait pas voulu à Bornéo. Cela sanglotait, reniflait, panait à toutes les aiguilles et se remettait en marche avec des petits bonds de poney mal dressés. L'archer échappa 2 fois en cours de route. Les gens ne s'étonnaient pas. Ils regardaient leur tramway comme une sorte d'antiquité supplémentaire introduite dans leur ville. Après s'être bien assuré que cette innovation ne tranchait par nul confort sur leurs habitudes, il l'avait accepté avec indifférence. Tout le monde causait avec le Watman et les portes n'avaient plus de loquet. Il avait 3 clients à visiter dans la capitale avant de commencer la tournée minutieuse des chefs-lieux de canton. Chartier, Couillot, Lévis. Il se répétait les 2 premiers noms sur la plateforme du tramway en tâchant de conserver son équilibre à cause des petits bonds. Ces noms tintaient gris et doux, voilés comme tout l'Ouest. il se sentait de bonne humeur de n'avoir plus affaire avec des Cahuzac, des Cadillac, des Vitalis, des Marchetti. Il y avait bien Lévy, mais un juif de plus ou de moins ne le gênait pas. Il en avait tant vu, des Manuel, des Rodriguez, des Gomez. Un juif, ça ne s'aime pas, mais ça ne cesse de payer que si ça dépose son bilan. Ça fait un bon client. Le nez busqué aux ailes olivâtres, ni les cheveux plats et bleus n'y font rien. Et comme ils se tiennent tous, il y a peu de faillites chez eux. Alors, Lévy, après avoir bien sangloté, en attaquant les courbes des rues défoncées, le gros tramway expira dans un râle en rejetant sa cargaison sur une place. Une immensité et une poussière de désert, comme il y en a dans toutes les cités de l'Ouest, avec un grand hôtel de ville dans le fond et des maisons sordides autour. Au travers d'un âcre nuage, le peuple traîne en tournant. C'est le manège des fins de journée. Jusqu'à 5 heures, le désert rôtit nu sous le soleil. Le premier coup de 5 fait éclater en nasillement éperdu les clairons des casernes et, là-bas, sur les autres collines, les trompettes de cavalerie. Un quart d'heure plus tard, la troupe déboule lentement par les rues en colonnes inégales, les pousse dans le ceinturon. Les régiments de l'Ouest sont mal vêtus. Les capitaines d'habillement doivent économiser sur le drap de troupe, car les pantalons ne joignent pas le godillot. Les cols bâillent autour des cravates roulées en ficelle par la sueur. Mais les officiers de l'Ouest ont tout l'après-midi à eux pour boire l'apéritif à la terrasse des cafés. À 7 heures, c'est un tournoiement grouillant. Le voyageur du dining car, qui lève le nez au démarrage et jette un coup d'œil sur les bas quartiers, ne se doute pas que 5 000 hommes, civils et militaires, manœuvrent ainsi, en plein cœur de la cité, tous les soirs que Dieu fait, sur 2 hectares de poussière ou de boue, pour le plus grand bénéfice du commerce local. Mais au coup de 8, tout est redevenu désert et étendu. Un nuage de poudre chaude embue encore les Beckauers municipaux. Chacun est chez soi. C'est l'heure où, s'il n'a pas trouvé une table amie sous une petite suspension de cuivre jaune, l'angoisse de l'isolement s'abat sur l'étranger. L'Ouest sait vous faire comprendre qu'il n'est pas bon de quitter sa demeure pour se lancer dans les aventures, et il n'a pas son pareil pour vous retirer le goût de vivre. Mais il ne sait pas que la poussière, la puanteur et la saleté ont cessé depuis quelques années de faire partie intégrante de la civilisation. Il ne sent pas son odeur et persiste à se réputer le plus grand peuple de la terre dans une auge. Le voyageur et son petit sac couvert de toile grise flottèrent un instant à la surface de la foule, puis, orientés, disparurent. Moins d'une demi-heure après, l'homme sortit seul de l'hôtel des Trois Rois, les narines propres, et se mit en quête d'un refuge contre l'angoisse. Ce n'est pas impunément qu'on a passé 20 ans, à raison de 10 mois sur 12, à traverser les lieux où les autres ont leur foyer. Cela se reconnaît à de terribles crises qui s'abattent sur les plus résolus, dans le désespoir d'une vie manquée, et l'horreur incoercible de la solitude où le métier les confine. Les capitaines au long cours et les employés des wagons-lits prévoient, paraît-il, à certains signes, que le mal approche. Ils ont alors différentes manières de lutter. Quand, par un temps de pluie battante, vous verrez le contrôleur de votre sleeping assis sur son tabouret, les mains entre les genoux, les yeux sur les tampons du wagon voisin, et que vous entendrez une petite chanson du genre de « broum, broum, frrr » comme le bruissement d'un gros hyménoptère enfermé dans une boîte à réglisse, vous saurez que cet homme assis là est en train de penser à sa femme, à son carré de jardin, à sa canne à pêche, à des nuits pleines, et désire le silence d'un coin de campagne qui ne défilerait pas. C'est pourquoi Couillot, en blouse et les mains sales, vit tout à coup une grande barbe noire et deux yeux bruns très doux qui se penchaient sur lui, tandis qu'il collait une rondelle Michelin sur la déchirure d'un clou affairé. « Monsieur Couillot, je pense. » Les deux yeux brillaient d'un éclat engageant.
« Faites-moi, » dit l'homme de l'Ouest, en promenant sur la sueur de son nez ses doigts gluants de dissolution.
« Valentin Loubatier, de la maison Bertin et compagnie, cycles et accessoires. » La barbe noire se découvrait poliment.
« Hein ?»
L'homme de l'Ouest est méfiant. « Je me proposais de venir vous faire mes offres de service demain, dans la matinée. Mais comme je vous ai vu sur le pas de votre porte, je me suis dit, nous allons faire connaissance tout de suite. À quelle heure puis-je être certain de vous trouver demain ?»
L'homme de l'Ouest, dès qu'il est assuré que vous n'avez droit ni pouvoir d'aucune sorte sur lui, aime à faire sentir que vous n'êtes pas grand-chose à ses yeux.
Monsieur Couillot revint à sa déchirure. Il intercala les temps.
Ça dépend. Je sors des fois. On ne peut pas dire.
Le voyageur se redressa et remit son chapeau en parcourant d'un regard indéfinissable le dos bleu de l'homme, de la nuque aux fesses. Il regarda la grosse horloge de l'hôtel de ville qui se hâtait sur la demi de huit, et la place qui se vidait insensiblement, comme si la foule avait fui par une infinité de conduits capillaires. Il pensa tout à coup avec précision que le midi avait du bon. Alors il pivota très doucement sur les talons et s'éloigna, avec une nuance de désespoir dans les épaules. Mais comme la brute restait un client, il prononça le plus indistinctement qu'il put:
« Bonsoir, monsieur. »«
Soir, »
grogna l'homme de l'Ouest un bon moment plus tard, en s'absorbant dans l'intestin reprisé du pneu qu'il faisait couler entre ses deux mains. C'est un grand abus de croire que toute couleur aille à tout commerce. Autrefois, chaque chose était dans l'ordre. L'usage réservait à chaque corps de métier une teinte bien connue. La spécialité se lisait au badigeon des devantures et tout n'en marchait que mieux. Les cafés étaient peints en noir, les débits en brun, les laiteries en blanc. Aujourd'hui, le bon marché des couleurs d'aniline a fait tomber le prix des teintes claires d'une fadeur dégoûtante qui ronge le bois et prennent en vieillissant des airs pisseux. La règle est devenue la proie de la fantaisie, et rien n'est plus que désordre et confusion. Le voyageur s'arrêta devant un bleu pâle de sucreries bon marché. Des timbres de nickel éblouissants reposaient sur un lit de peluche rouge entre des flacons d'huile et les anneaux enroulés d'une chaîne mate. La vitre de la porte lui révéla, dans l'arrière-boutique, un spectacle devant lequel son foie de Hollandais volant tressaillit. Autour d'une table ronde, cinq personnes assises officiaient en inclinant la tête devant les flancs d'une grosse soupière fumante. Cinq colonnes de vapeur plus minces marquaient les ciboires régulièrement espacés où reposait la nourriture du soir. Le soleil se couchait, par-delà l'arrière-boutique, sur un petit jardin vert et or bien ratissé. La vapeur du potage prenait le ruissellement du couchant et l'emportait en s'élevant vers l'ombre du plafond. La famille Chartier se mettait à table. Le voyageur, ébloui par le soleil, se perdait, immobile, dans cette vision de calme paradisiaque.
« Alfred, regarde donc celui-là !» dit une voix aigre.
Un homme mal rasé, en bras de chemise, la serviette au cou, se leva de table en faisant grincer les quatre pieds de sa chaise et s'en vint, la bouche pleine, d'un pas pesant.
sans un regard au voyageur, il claqua la porte entrebâillée et poussa un loquet intérieur. Puis, il s'en retourna en roulant sur ses mollets. Sa silhouette cachait et démasquait le soleil. Monsieur Chartier venait faire acte de bon père de famille, ce qui est inscrit au chapitre premier des vertus bourgeoises. Le voyageur s'en fut. Au bout de la rue, la place apparaissait à moitié vide. Des groupes congestionnés, les pantalons bordés d'un large galon de poussière blanche, dépassaient le voyageur. Un tapage de discussions les enveloppait. Mais les mots n'avaient pas de sens pour lui. Il regardait autour de soi et sentait le poids de ses paupières. Il sentait également sa solitude. La deuxième rue à gauche, lui avait-on dit. Par une dernière répugnance, il inventa différents prétextes pour traîner. Assurément, il était bien dégagé des préjugés imbéciles. Les bêtises de la libre parole ne prenaient plus sur lui. On ne roule pas 20 ans sa bosse sans... Et il en avait connu de fort bien. Un chimène de Cerbère, entre autres, un grand vieillard osseux qui faisait tenir 3 billes de billard dans sa main et qui centralisait toutes les affaires de contrebande de la région. Un homme qui n'avait jamais fait tort d'une demi-piécette à âme qui vive, sinon à l'état espagnol. Mais celui-là, il prenait une joie puissante à le dépouiller. Une revanche de 15 siècles passait dans les éclats de sa voix décharnée quand il déclarait, avec son accent catalan, coriace et velouté comme une pêche verte, « 12 millions que je lui ai repris à cette couane de majesté catholique, 12 millions en 12 ans, 1 petit par an. » Mais de là à s'en aller mendier, ou tout comme une place à la table d'un youpin, on a beau être un esprit fort, il y a de vieux levains qu'on n'empêche pas de remonter. Il respirait par avance des odeurs mal définies qui lui levaient l'âme. Sait-on quelle cuisine étrange de Galicie ou d'Alsace il allait trouver? Il y fut avant de s'être décidé à s'y rendre. Il vit au loin les lettres jaunes de la boutique. « A. Lévy, Cycle ». Il se retourna. La nuit venait décidément. Il entrevit la salle à manger de l'hôtel, un long corridor sous un plafond écrasé, en contrebas de la rue, sa table étroite, dont le milieu s'ornait d'un chauffe-plat de métal blanc livré à une invasion de fleurs artificielles, son vieux lustre piqué des mouches et maladroitement adapté à l'électricité, le souffle aigre et nauséeux du magie qui entrait par la porte de l'office. Il y aurait aussi le grand voyageur chauve qui mélange le vin rouge au potage et se vide directement le fond de l'assiette dans la bouche et dans la barbe. Il y aurait le petit voyageur qui aspire les vermicelles à la tire en reniflant. Le gros voyageur apoplectique qui lève le coude en épongeant la sauce maître d'hôtel avec une mie de pain et multiplie sans résultat les saluts maçonniques. Le décharné à la peau terreuse qui vante les dernières récoltes d'Anjou en buvant un lait chaud. Le vieux qui a le rhume des foins et dont la jaquette s'illustre de roupies sèches. Le grison, qui parle de faire sauter la société, mais double ses bénéfices annuels en extorquant aux compagnies de chemin de fer des indemnités indues. Le beau blond, au teint rose, qui a du succès près des dames, sait le chex par cœur et écrase le socialisme entre le pouce et l'index en croquant des mendiants et en montrant ses bagues. Celui qui cause trop haut, celui qui cause dans ses joues, celui qui débarque fourbu, aphone et l'estomac tourné après une journée de palabres et de verres vidés sur les tables poisseuses, et celui qui part par le train pour une nuit de chaos sur les banquettes des troisièmes et d'attentes interminables aux bifurcations perdues. Et il se dit, ce qui n'était assurément d'aucune utilité, qu'à cette même heure, et sur tous les points du territoire, une ou deux tables d'hôtes collectionnaient de même les différentes variétés illustrées de sa propre misère et du métier. Si, à 17 ans, vous avez jamais eu la velléité d'entrer dans un mauvais lieu, et si vous avez jamais croisé d'un air inoffensif, pendant une demi-heure, sur un trottoir, devant une porte qu'on guette à la dérobée, vous connaîtrez pleinement les sentiments du voyageur quand il aborda la pente de la rue. Un petit homme gros, sans cou, en veston d'alpaga gris, mettait les volets de sa boutique. Le voyageur constata que ses gestes étaient nerveux. Des gens, en passant, le bousculaient. On pouvait croire, sans trop de peine, qu'ils y apportaient de l'affectation, qu'ils y trouvaient même du plaisir. Le voyageur fut sur lui avant d'y avoir songé. La déclivité de la rue était forte. Quand il s'en rendit compte, il tenait déjà dans sa main son melon poussiéreux et il commençait d'une voix sucrée. « Monsieur Lévy, je suppose. » Le petit homme se retourna, effrayé, un volet de bois serré dans ses bras. Il ne vit qu'une barbe noire et deux yeux bruns pleins de douceur et de tristesse qui le regardaient.
« Ah, monsieur, qu'y a-t-il pour votre service ?»«
Valentin Loubatier, de la maison Bertin et compagnie, cycles et accessoires. »«
Ah, vraiment ? Enchanté, croyez bien ?»
Il avait la tête ronde et des sourcils roux. Ses petits cheveux clairs frisaient sur un front étroit et massif. Les lèvres charnues découvraient la honte des dents gâtées. La peau était dure et tachée de son. Les yeux globuleux, verrons. Les narines épaisses s'inséraient à mi-chemin des pommettes, comme des amarres sur lesquelles le nez gras tirait. Les oreilles se décollaient largement du crâne. L'humidité de la peau glissait partout, des petites boules de sueur. Il devait être très pauvre. Cela se voyait tout de suite, au col ramolli sur la cravate de bazar, à l'alpaga difforme du veston et au brodequin rond. Le ventre pesait sur les boutonnières du gilet. On apercevait la flanelle bleuâtre de la chemise par les fentes. Et il devait être très bon. Ses yeux verrons, dans leur cercle de paupières rouges, presque dénués de cils, avaient un air craintif. On ne pouvait s'empêcher d'en éprouver de l'irritation. On leur en voulait d'être si humble. Cela incitait à la brusquerie. « Je me proposais de venir vous faire mes offres de service demain, dans la matinée. »«
Oui, oui, » souffla le petit homme sans cou, en ruisselant d'émotion.
Le voyageur se sentit sourire. « Comme je vous ai vu sur le pas de votre porte. »«
Oui, je fermais. »
À ce moment, une bande de deux filles et de trois garçons, dont un étudiant au béret de velours, descendit la rue en chantant. Il tenait la largeur du trottoir et la moitié de la chaussée. L'étudiant arriva en plein travers de Lévy et de son volet. On entendit un bruit sec, puis de gros éclats de rire. Jeté contre la devanture de sa boutique, le petit marchand s'était écrasé les bras à demi. Il recula, les yeux lourds, et posa hâtivement son dernier volet avec des gestes maladroits. Ses mains étaient violettes et tuméfiées. Il balbutia, comme pour s'excuser de tenir de la place sur ce trottoir et dans ce monde.
« Vous voyez, je ferme. »
Le voyageur contemplait avec stupeur le petit marchand et la bande qui s'éloignait au bas de la pente, en gueulant
« Mort aux Juifs !»«
Les brutes !»
fit-il de tout son cœur.
« Ils sont jeunes !» dit précipitamment le petit marchand.
Le voyageur se tourna vers lui. « À quelle heure puis-je être certain de vous trouver demain » conclut-il, non sans un certain dégoût. La barre était ajustée, le cadenas clos. Lévy leva ses gros yeux vers lui et, très simplement,
« Vous n'avez pas dîné, sans doute. »«
Non, non, c'est-à-dire, je retournais précisément. »«
Vous ne voulez pas dîner à la maison ?»
reprit le petit marchand avec de la timidité et de la résignation navrée.
« C'est que on m'attend. »
Le voyageur tira ce mensonge de son gosier avec effraction. Ils restèrent un instant à se regarder, gênés.
Trouvant son niveau trop bas, Lévi était monté sur la marche du seuil. Il se dandinait en faisant craquer ses phalanges humides, décorées d'épaisses touffes de poils rouges. Il se tourna vers l'ombre de la boutique et appela d'une voix de gorge épaisse.
« Noémie, insiste donc pour que monsieur, qui est voyageur pour la maison Bertin, reste dîner avec nous. »
Une voix de femme, richement timbrée, répondit
« Monsieur, vous ne voulez pas partager notre dîner ? On peut, c'est sans façon. Et puisque Lévi vous le demande. »
Un crépitement de cuisine monta. Au loin, des clameurs éclatèrent. Elles retentissaient dans le vide de la rue avec une sauvagerie forcenée. La face du petit marchand devint grise. À moins que...